Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Imaginez-vous ce qui nous reste à vivre du 21e siècle. Quel livre vous a mis sur la voie de ce futur immédiat? S'agit-il forcément d'un futur sombre, de lendemain de cendres? Qu'est-ce que ces visions ont provoqué chez vous, sur votre écriture, voire sur votre dernier ouvrage en date? Bref, tous foutus, ou reste-t-il, allez, un chouïa d'espoir face à l'effondrement général? C'est la question que j'ai posé fin septembre au fil de la 21e édition des correspondances de Manosque, planqué que j'étais dans l'arrière-boutique d'une ancienne librairie, question posée à une dizaine d'écrivains qui ont accepté d'en venir à demain sans jamais jouer, ou presque, les prophètes d'Apocalypse. Après un premier épisode en compagnie de Cécile Coulon, Alban Lefranc, Brigitte Giraud et Laure Limongi, diffusé dimanche dernier et toujours disponible en podcast sur nova.fr, voici la suite de cette série de conversations divinatoires dans laquelle, de nouveau, quatre auteurs vont se succéder devant notre micro boule de cristal. Tout d'abord, Hélène Gaudy, sans quitter la parka nécessaire à la lecture de son roman « Un monde sans rivage » paru aux éditions Actes Sud, qui revient sur une malheureuse expédition polaire de 1897, elle se souvient d'un livre de jeunesse, « Les enfants de Noé » de Jean Joubert, du temps où la neige était encore une menace. Ensuite, tout en tirant des leçons des errances post-apocalyptiques du roman « La route » de Cormac McCarthy, le Belge Charlie Delwart, auteur d'une drôle d'autobiographie chiffrée, databiographie aux éditions Flammarion, se passionne pour les habitants de l'île des Sentinelles, dans le golfe du Bengale, totalement coupé du monde moderne et capable ainsi, peut-être, d'échapper au siècle. De son côté, Olivia Rosenthal, qui dans son Éloge des bâtards, disponible aux éditions Verticales, plante la graine de la désobéissance, s'interroge sur le futur de notre agriculture en creusant, bien sûr, jusqu'à ses racines via l'essai du politologue James C. Scott intitulé « Homo domesticus, une histoire des premiers états ». Enfin, Sylvain Prudhomme, porté par son ouverture naturelle au possible, semblable en cela à l'autostoppeur solaire de son roman « Par les routes », publié aux éditions L'Arbalète Gallimard, Sylvain préfère errer dans les rayonnages millénaires de la bibliothèque de Babel, imaginée par Borges, à la recherche d'une hypothèse pour ces temps incertains, avant de nous résumer l'une de ses nouvelles, la dernière image, lunaire et fatale. En deux mots, nos futurs! Enfin, je veux dire, nos, N-O-S, et futurs, F-U-T-U-R-S. Il y en a plein. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova que vous retrouvez chaque dimanche de 12h à 13h, tel un océan de sagesse dans votre brunch. Première à tenter aujourd'hui de nous livrer ses visions d'un futur proche, Hélène Gaudy, 40 ans, autrice d'une vingtaine de romans, dont plus de la moitié pour la jeunesse. Son dernier livre, intitulé « Un monde sans rivage », publié chez Actes Sud, part, ou plutôt décolle, d'une histoire vraie. En 1897, trois brillants ingénieurs suédois quittent leur pays en ballon avec l'intention louable d'atteindre le pôle Nord. Mais la toile du ballon lâche, on perd leurs traces pendant 33 ans. À l'été 1930, un baleinier retrouve sur une île de Norvège le journal de bord tenu par l'un des aventuriers, ainsi qu'une pellicule photo dont les images susciteront la curiosité de beaucoup d'Européens. On y lit et on y voit leur survie pendant 3 mois. On a appris à nommer les pays et les plaines, les océans et jusqu'aux glaces lointaines, à faire tenir l'étendue la plus hostile dans le creux de la main, jusqu'à ce que ce vert, ce bleu, ce profond de la terre ne soit plus que souvenir, objet perdu, écrit-elle. Et dans l'imaginaire littéraire d'Hélène Gaudy, cette idée d'un monde de glace impitoyable vient de loin.
Nova Book Box. Nova te mince la tête avec tes mots très doux.
C'est un livre que j'ai exhumé dans ma bibliothèque d'enfants, qui s'appelle « Les enfants de Noé » de Jean Joubert. Et en fait, c'est une famille qui se réveille un matin et la neige est montée très haut, ils ne peuvent plus sortir de leur maison. Et donc, ils vont se mettre à vivre comme des Robinsons, en fait, mais dans leur maison, envahis par la neige. Je vais juste vous lire ce petit, tout petit bout. Donc, ce dimanche-là, quand je me suis réveillée, il y avait un grand silence sur la maison. Et tout de suite, j'ai reconnu le silence de la neige. Lorsqu'elle est tombée comme ça toute la nuit et qu'elle recouvre le chalet et la montagne, il n'y a plus aucun bruit. On a beau tendre l'oreille, la vie dehors s'est étouffée. Lorsqu'elle est tombée comme ça toute la nuit et qu'elle recouvre le chalet et la montagne, il n'y a plus aucun bruit. On a beau tendre l'oreille, la vie dehors s'est étouffée. Seul le tic-tac de l'horloge continue de résonner dans la salle. En fermant les yeux, on éprouve une sorte de léger vertige et on se demande si l'on n'est pas encore en train de rêver. Je me souviens que ce livre m'avait beaucoup marqué parce que c'était une idée peut-être de la fin du monde qu'on a longtemps eue, souvent dans les films catastrophes, il y a de la neige, il fait très froid. Et j'ai l'impression que c'est pas ce qui se produit, ou en tout cas la fin du monde qu'on a tellement imaginé dans des livres, dans des films, ne prendra évidemment pas la forme qu'on avait prévue. Et au contraire, cette neige qui était un petit peu un symbole de menace, qui était quelque chose d'effrayant, quelque chose d'étouffant comme ça, devient finalement ce qui nous manque. Et je me suis rendu compte en écrivant Un monde sans rivage, qui est donc l'histoire de ces trois Suédois qui vont être avalés petit à petit par un paysage du grand froid, puisque c'est en Arctique, sur la banquise. Et les photos retrouvées de cette expédition où on les voit eux-mêmes en train de disparaître, en train d'être avalés par le paysage, je me suis rendu compte en cours d'écriture que ce que je voyais sur ces images, en fait, sans l'avoir identifié tout de suite, c'était pas seulement la disparition de ces hommes-là, mais c'était la disparition du paysage lui-même, en fait. Et comme si, finalement, les taches de ces images, les matières, le fait qu'elles basculent petit à petit dans l'obscurité, c'était une espèce d'image... d'avant, une espèce de prophétie visuelle, en fait, de quelque chose qui allait se produire, évidemment, bien après, puisqu'elle date de 1897. Et voilà, et finalement, les choses arrivent jamais comme on les attend. Elles prennent jamais la forme qu'on imagine. Tous foutus ou un peu d'espoir, c'est difficile de répondre à cette question. Moi, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir, en fait. Je pense qu'on a tous un peu de mal, certains plus que d'autres. Il y a des gens que ça paralyse même complètement et que ça empêche d'agir aussi. Donc je pense qu'il faut se projeter suffisamment pour en tout cas essayer d'agir, pour sauver ce qui peut être sauvé. Ça me semble important. Mais ce que j'essaye de faire, en tout cas quand j'écris, c'est plutôt d'essayer de trouver des points d'entrée, en fait, dans cette... dans cette histoire, dans cet avenir incertain, dans cette peur en fait qu'on a tous, et de peut-être de faire ressentir les choses un petit peu autrement, ou de trouver un regard un petit peu oblique qui permet notamment de s'attacher au paysage, au lieu. Quand on dit que tout va disparaître, évidemment c'est tellement énorme et c'est tellement écrasant que finalement on préfère souvent le balayer de son esprit, alors que quand on pense à une chose, quand on pense à un endroit, quand on pense à une personne, là il y a quelque chose qui se met en route et qui permet aussi de rester actif, qui permet de rester éveillé en fait par rapport à ce qui se passe. Donc, je pense que l'écriture, sans chercher à donner des leçons, elle peut parfois avoir cette faculté-là en fait de rendre vivantes des choses qui sont amenées à disparaître et du coup de les rendre précieuses. On peut pas les sauver, mais on peut quand même... Voilà, je pense beaucoup aux inventaires de Pérec, par exemple. Ça n'a rien à voir, on parle pas d'écologie, mais à la volonté très, très tenace et très touchante qu'il avait d'inventorier les choses pour pas qu'elles disparaissent, pour pas qu'on les oublie. Et je pense que l'écriture, ça sert beaucoup à ça. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup comme ça que je l'envisage. Pas à faire des prophéties, pas à faire peur, mais à... Voilà, qu'on se rende compte de la préciosité des choses qui nous entourent aussi. Bah, 2100, on n'est plus dans les suppositions, hein. On sait quand même, on sait scientifiquement ce qui peut se produire. Alors, tirer à l'avance une image de tout ça, c'est très difficile. Je pense que ce qui, moi, me vient, et je ne suis pas du tout la seule, c'est justement, on parlait du froid, on parlait de la neige, c'est l'inverse, c'est l'idée de l'incendie, en fait, c'est l'idée de la chaleur. Cet été, je marchais chez moi dans la rue à Montreuil et je me suis brûlé la main en ouvrant une porte, rien que parce que la porte était bouillante et c'était rien par rapport à ce qui peut se produire. C'était 3 jours de canicule, voilà. Mais d'un coup, les choses les plus quotidiennes pouvaient devenir menaçantes, en fait. Et la rue que je connaissais devenait complètement impraticable. Et voilà, je pense qu'il y a une image, ou en tout cas une sensation d'étouffement que j'ai pu vivre pendant un voyage en Inde, par exemple, ou le fait de sortir dehors, enfin sortir tout court d'ailleurs, devenait une expérience physique, quoi. Et donc c'est vraiment plus l'espèce de d'agression du corps, quoi, qu'on peut imaginer. Ouais. J'avais justement dans la tête, en vous disant ça, le grand incendie, c'est le grand incendie de Noir Désir. Voilà, comme ça, spontanément, sans réfléchir et sans mettre de signification particulière par rapport au groupe ou quoi, mais c'est cette phrase qui me revient des fois.
Ça y est, le grand incendie, y'a le feu partout, emergency, Babylon, Paris s'écroule, New York City, Iroquois qui déboule maintenant. Allez, London, Delhi, Dallas, dans le show, hommage à l'art pompier. T'entends les sirènes, elles sortent la grande échelle. Vas-y, go.
Le grand incendie.
Et tandis que forêts, usines et quelquefois territoires entiers s'embrasent aux quatre coins du globe dans de grands incendies, voici que s'avance le deuxième devin consulté par mes soins en Provence sur nos futurs cataclysmiques ou préoccupés. Voici l'écrivain et scénariste Charlie Delwart, rencontré comme tous les intervenants de cette émission lors de la 21e édition des correspondances de Manosque. Pour savoir qui est vraiment, profondément, quasiment mathématiquement, cet auteur belge francophone de 44 ans, je vous invite à consulter son dernier ouvrage, publié chez Flammarion, intitulé « Data Biographie ». C'est sa vie, en données, en chiffres, en graphiques, en calculs ou en camembert, qu'il nous donne à entrevoir, assorti de considérations nées de l'observation de ces faits irréfutables qui composent 4 décennies et demie d'existence depuis son arrivée sur Terre. Il croise les données, les commente, on le connaît un peu mieux après, on sait le nombre de disputes au sein de son couple, ses phobies, les principales positions sexuelles utilisées, combien d'argent il a dépensé pour sa psychanalyse, le nombre de personnes qu'il rencontre en une année et les prénoms dont il se rappelle. Et si Charlie Delwart savait où se cache Xavier Dupont de Ligonnès? Si vous écoutez bien ce qui va suivre, vous entendrez parler d'une île perdue dans le golfe du Bengale où 150 personnes vivraient comme il y a 150 000 ans. Une bonne planque, peut-être, pour les 100 ans à venir.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes? Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
Quand je pense à ce qui nous reste à vivre du 21e siècle, je vois une sorte de suite de ce qu'on vit maintenant en chaque fois plus confus. Il y a deux axes qui me parlent. C'est l'un, l'éclatement de l'information, qui est une masse de plus en plus vaste à digérer et de plus en plus multisource. Et donc, par rapport au livre qui pourrait résumer ça, l'un serait mon année de repos et de détente de Tessa Mosfeg, parce que je me dis qu'une réaction, ce serait de dormir. C'est une auteure qui a sorti un livre à la rentrée chez Fayard. C'est une auteure américaine qui raconte l'histoire d'une fille qui, de 25 ans ou 26 ans qui décide pendant une année de se ressourcer en avalant le maximum de somnifères de tout ordre et qui essaie de voilà qui passe une année dans le brouillard du sommeil. L'autre optique, ça c'est pas moi, je suis plus positif que ça je crois, mais l'autre livre qui m'intéressait c'était La Route de Cormac McCarthy, qui est sorti il y a quelques années, qui raconte la vie d'un père qui cherche à épargner ou sauver son fils le temps que lui est en vie et qu'il peut construire une solution d'avenir dans un monde post-apocalyptique dont on ne connaît jamais la raison pour laquelle tout a été détruit et qui ressemble à des âmes errantes armées de caddies qui cherchent là où elles peuvent à se nourrir, s'habiller, se vêtir, et qui est comme une sorte de préfiguration de tous les exils climatiques, fuites de tout ordre qu'on commence à vivre aujourd'hui, enfin qu'on vit déjà depuis quelques années, mais qui serait une possibilité de ce que sera la suite du XXIe siècle. Je ne vois pas spécialement toujours ça de manière si sombre, mais si je dois le voir de manière si sombre, enfin, il y a de toute façon la fin inéluctable de la Terre dans 5 milliards d'années, et donc c'est comme que ce soit dans 100 ans ou dans 5 milliards, on sait que ça existera, donc on vit un monde qui est destiné à finir, et nous à finir dedans aussi. Mais je trouve que ma question, c'est plus de voir là-dedans comment on peut digérer ce monde en déliquescence ou ce monde en danger. Et comment on peut aussi tenter de donner du sens à travers son travail et à travers les années qu'on a imparties sur Terre pour en faire quelque chose. Alors ça passe pas que par aider à colmater, aider le présent, mais c'est, je crois justement à se dire qu'il y a des voies, il y a des biais. Je lisais un article sur un chercheur qui s'appelle Thomas Crowther, qui est un chercheur en biologie qui cherche à faire la data, à recenser l'entièreté des arbres sur la Terre, en disant ici, en fait, il faudra en replanter plus ou moins 2 ou 3 milliards. Et lui dit, mais je sais où il faut les planter. Et donc il passe son temps à analyser en mettant des compétences ensemble dans son laboratoire, une dizaine de gens qui sont autant des gens capables d'analyser des photos géosatellites et de dire et d'essayer de comprendre où se trouve aussi la population de champignons dans la Terre, et ça permet de se dire, mais voilà, où sont les écosystèmes manquants, ceux qu'on détruit, ceux qui permettraient d'absorber le carbone. Je trouve que des esprits vifs qui aide à trouver des solutions de reconstruction ou des échappées positives sont ce que j'aime chercher et que j'aimerais intégrer dans mon travail. Soit ça, soit tout ce qui peut relier à des choses qui dépassent la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que des tribus séculaires ou des formes de vie plus tribales, aborigènes, elles cherchent finalement à échapper au siècle, à échapper au siècle au pluriel, et ça m'intéresse, ça m'intrigue en fait. Il y a une île qui s'appelle North Sentinel, qui est au large de la Nouvelle-Zélande, il me semble, qui est une île en fait où les gens vivent de manière protégée. C'est une des rares tribus non contactées. Et toutes les tentatives de les contacter récemment se sont soldées par la mort des gens qui approchaient l'île. Ils sont morts tués par les indigènes sur place qui en fait vivent dans la forêt et dès que quelqu'un s'approche, ils débarquent sur la plage et ils le tuent, ils envoient des flèches. Mais ce qui est le plus fou là-dedans, je ne sais plus de quelle juridiction dépend cette île, de quel pays, mais au lieu de dire ben, voilà, c'est anormal, n'y allez pas, maintenant on estime qu'il faut protéger ces populations. Et donc si vous y allez, vous êtes, et que vous savez de toute façon que vous êtes tué, vous êtes quelque part, donc si vous, pardon, vous affrétez un bateau pour aider quelqu'un à y aller, vous pouvez être... jugé pour homicide involontaire. Et du coup, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'il y a sur Terre une population qui est la plus intacte, la plus primitive, et que si on devait avoir une idée de c'est quoi être chasseur-cueilleur, ou c'est quoi vivre de manière tribale, il y a une solution quelque part sur la Terre aujourd'hui, et cette solution, vous ne pourrez jamais y avoir accès. Si vous y allez, vous mourrez. Voilà. Ce genre de choses peuvent nous donner une indication... d'autres solutions qui ne sont pas réalistes, mais qui sont presque des espaces mentaux à investiguer pour soi, parce qu'on vit les catastrophes à échelle humaine, mondiale, communautaire, commune, mais on les vit aussi pour soi, en fait. Et je trouve que savoir qu'il existe, au même moment où on parle, il existe des milliards de choses au moment où on parle, mais il y a aussi ça, il existe cette tribu, et je ne sais pas comment ils se parlent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, et j'aimerais bien le savoir. Mais du coup, je me dis, ça donne presque envie de retourner à ces modes de fonctionnement. C'est pas réaliste, hein, ça n'a aucun sens concret, mais je m'en fiche, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est l'existence, en fait, c'est la coexistence de ces... Tout ne va pas dans un même sens, en fait. Alors, ils seront victimes, comme nous, de choses, mais déjà, maintenant, l'idée que certains États les protègent, je trouve ça fou. Entre tous foutus, il y a de l'espoir. Il doit y avoir une limite à l'aveuglement collectif. Il y a donc, justement, des lanceurs d'alerte... l'équivalent de lanceurs d'alerte, comme ce chercheur dont je parlais, de gens qui croient en des solutions... en fait, c'est difficile quand on n'est pas scientifique, c'est très difficile de vivre le monde actuel parce que, en termes de compréhension du danger, on le comprend, mais en fait, on peut regarder les icebergs qui disparaissent, les ours seuls sur des bouts de banquise. À la fin, on n'a pas les données, on ne sait pas si ça se chiffre en centaines d'années. On dit qu'il est trop tard, on comprend. Il y a évidemment des choses symboliques. La date où on a consommé les ressources de la planète pour une population donnée, alors que ça aurait dû être des ressources annuelles, on comprend bien qu'on mange sur la bête. Mais je crois qu'il y a, quand on voit, c'était un Indien qui s'appelle Jadav Palenk, qui toute sa vie, il plante des arbres tout seul. Il y a des types comme ça qui, toute leur journée, ils plantent des arbres, ou comme Sébastien Salgado avec sa fondation. En fait, je crois qu'il doit y avoir à un moment une convergence aussi. Comme il y a une convergence de la connerie, il y aura une convergence aussi des actions positives, fructueuses et avec un impact certain. Dans l'idée de trouver une bande-son à ce siècle à venir, c'est presque un truc religieux, c'est une vieille chanson de Bowie qui s'appelle « God knows I'm good ». Et en fait, j'aime bien, maman, qu'on puisse se dire, mais même à échelle collective, en fait, on est bon. Et donc, si on est bon, soyons capables de bon aussi.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
I was walking through the counters of a national concern, and a cash machine was spitting by my shoulder. And I saw the multitude of faces, honest, rich and clean, as the merchandise exchanged and money rolled. And a woman hot with worry slyly slipped a tin of a stewing steak into the paper bag at her side. And her face was white with fear in case her actions were observed.
So Cher closed her eyes to keep her conscience blind. Crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. God may look the other way today. Then she moved toward the exit, clutching tightly at her paper bag. Perspiration trickled down her forehead, and her heart had leapt inside her as a hand laid on her shoulder. She was led away, bewildered and amazed. Through her deafened ears, the cash machines were shrieking on the counter as her escort asked her softly for her name. A crowd of honest people rushed to help a tired old lady who had fainted to the whirling wooden floor. Crying, God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way. God knows I'm good, God knows I'm good, God knows I'm good. Surely God won't look the other way.
God Knows I'm Good, avant-dernière chanson du deuxième album de David Bowie, Space Oddity, sorti le 4 novembre 1969, il y a donc 50 ans, moins de semaines. Poursuivons, si vous le voulez bien, chers auditeurs, chères auditrices, ces conversations semi-prophétiques, cette collection d'intuitions sur le 21e siècle, enregistrée lors de la 21e édition des correspondances de Manosque. Après Hélène Gaudy et Charlie Delwart, c'est au tour d'Olivia Rosenthal, 54 ans, romancière, dramaturge, conteuse, performeuse et professeure de littérature à l'Université Paris 8, de s'interroger sur nos futurs et plus précisément sur le futur de notre agriculture, en creusant bien sûr jusqu'à ses racines. On croyait non seulement à la puissance du verbe, mais à l'archéologie, à la géologie, à la spéléologie, comme mode d'explication de la surface. Alors, on passait notre temps à osciller entre des déambulations superficielles, légères, fines traces sur la neige, et des coups de pioche assénés avec une sorte de ferveur rageuse sur les vieilles souches ancrées et indéracinables. Dit-elle dans son livre « Éloge des bâtards » qu'Olivia Rosenthal vient de publier aux éditions Verticales, soit le roman de la désobéissance de 9 réfractaires qui tentent de se coordonner pour occuper des espaces de liberté pour constituer sous pseudonyme un collectif révolutionnaire dans une grande ville. Éloge des bâtards, éloge des origines incertaines, et si, pour pouvoir affronter l'avenir, et si on se penchait sur les origines parfois méconnues de nos organisations sociales et par là même, miam miam, de notre régime alimentaire.
Nova Book Box, l'hôtel du livre-échange.
Je pense pas qu'on soit tous foutus. Par ailleurs, je sais pas, tout le monde est très très intéressé par le devenir de l'espèce humaine. Personnellement, ça m'est complètement égal que l'espèce humaine disparaisse. Je pense pas que ce soit une espèce qui doive absolument être, comment dirais-je, protégée. C'est pas l'espèce la plus intéressante de la planète, d'après moi. Donc bon, si on veut absolument la conserver, je dirais que de toute façon, oui, on n'est pas encore foutus. On a encore devant nous des propositions à faire, j'ai l'impression en tout cas. Quand je pense à un livre sur le 21e siècle, je pense à un livre de James Scott qui vient de sortir, qui s'appelle Homo Domesticus. Et c'est un peu un paradoxe, mais c'est un livre qui porte sur la préhistoire. Et en fait, c'est un livre qui est très troublant, puisqu'en fait, James Scott s'intéresse à la constitution des États, Donc nous vivons dans un monde dans lequel il y a des États, ça nous paraît évident. Et il explique au fond que l'existence des États, c'est quelque chose d'extrêmement récent, et que jusqu'à il y a une période très récente, c'est-à-dire jusqu'au moins à peu près jusqu'au XVIIIe siècle, on peut dire que les États n'étaient pas la forme dominante de l'existence des humains. Donc déjà, cette chose-là nous met dans un rapport très bizarre à notre propre histoire, puisqu'on se dit, ah oui, en fait, il y avait avant les États des tas de manières de vivre ensemble qui n'étaient pas, disons, institutionnalisées. Et donc, il parle de plein de sociétés qui étaient en quelque sorte des sociétés autonomes, qui ne subissaient pas la fiscalité, qui parfois ne connaissaient pas l'écriture. Donc, il y a cet aspect-là du livre qui m'intéresse. Et l'autre aspect du livre qui est intéressant, c'est qu'il explique que on nous a fait croire pendant très longtemps que l'arrivée de l'agriculture et la domestication des plantes et des animaux, c'était un progrès, et que grâce à ça, les hommes sont passés du statut de nomade au statut de sédentaire, et que c'est ça le progrès de l'humanité, et qu'en fait, peut-être qu'on pourrait mettre en cause cette idée-là aussi, puisque les sociétés nomades et les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient finalement des sociétés, nous explique-t-il, qui vivaient mieux, au sens où qui travaillaient moins et dont la nourriture était plus équilibrée. J'ai le sentiment que cette vision de la préhistoire, c'est, enfin pour moi, ça a vraiment changé le rapport que j'entretenais avec l'histoire des sociétés et peut-être avec notre avenir. Au fond, je me suis dit, bah, peut-être que ce qu'il nous raconte, c'est qu'il y a des cycles et qu'il va y arriver un moment où on sera à la fin des États. Et quand on sera à la fin des États, on va se retrouver dans des situations où il y aura de petites communautés un peu autonomes, donc qui sont un peu à l'écart de la constitution des États et qui vont former des sortes de sociétés alternatives. Donc je ne dis pas qu'on va tous devenir des chasseurs-cueilleurs, mais il y a quelque chose qui m'intéresse là. Donc son livre, c'est tout un livre aussi sur l'agriculture et sur le fait que l'agriculture, c'est, pour l'État, c'est très important de constituer des agricultures où on peut ponctionner une partie du résultat. C'est l'impôt, en fait. Et donc il faut que les agricultures soient des agricultures de plantes qui permettent cette ponction. Donc des plantes qui arrivent à maturité tout en même temps, qui sont visibles, parce que si elles n'arrivent pas tout en même temps à maturité, ben, on peut en cacher certaines. Si elles ne sont pas visibles, ben, on peut s'arranger pour ne pas payer. Donc toute cette sa théorie, c'est que du coup, c'est comme ça que, par exemple, les céréales ont été choisies. C'est comme ça qu'on est arrivé aussi à des sociétés de monoculture. C'est pour que les États puissent finalement prélever l'impôt. Et j'ai envie de dire que voilà, là aussi, on est, me semble-t-il, arrivé à un moment où on est à une limite, c'est-à-dire on se rend compte des effets néfastes de ces monocultures, du danger que ça peut représenter sur, je dirais, sous plein d'aspects différents, pas seulement sous l'aspect écologique, mais aussi dans la nourriture, enfin, etc. Il y a plein de... Et donc peut-être qu'on est à un moment où ce rapport à la monoculture est aussi en train de changer. Et je me dis, voilà, peut-être qu'au XXIe siècle, on va retrouver une autre manière de concevoir l'agriculture en lien avec peut-être, la chasse, la cueillette, mais d'une autre manière, évidemment, que pendant la préhistoire. Et peut-être que, oui, on va changer le rapport que les sociétés ont avec l'État. Enfin, non, je pense que c'est un peu une utopie, ce que je raconte, mais ça a quand même... ça a fait quand même vaciller un petit peu ma vision de l'avenir. Ce livre de James Scott, je l'ai lu après avoir fini le dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle « Éloge des bâtards ». Et je pense que si ce livre m'a frappé, c'est parce que « Éloge des bâtards » résonne beaucoup avec ça, dans la mesure où « Éloge des bâtards », c'est l'histoire d'un groupe de 9 personnages qui précisément entrent en résistance et en quelque sorte essayent de s'affranchir d'une institution qu'on ne connaît pas. C'est une institution assez mystérieuse. On ne sait pas exactement contre quoi ils luttent, mais en tout cas, ils sont en quelque sorte marginalisés. Et ils vont constituer leur petite communauté en discutant les uns avec les autres. Donc il y a quelque chose dans leur, dans la formation de leur groupe, et je dirais même dans la manière dont ils conçoivent leurs actions, qui les met à l'écart de l'État. C'est-à-dire que c'est un groupe, mais ce ne sont pas vraiment des citoyens, comme on appelle désormais les gens qui appartiennent à un État. Et voilà, il y a eu quelque chose là qui m'a paru, dans le livre sans doute, ça a résonné en fait avec la manière dont je concevais le groupe de personnages que j'avais inventé. Et si on revient à James Scott, il y a une chose qu'il raconte qui est assez belle. Il dit en fait que la domestication, ça a aussi été une catastrophe sanitaire, puisque avec la domestication, donc on a choisi certaines espèces végétales contre d'autres. C'est allé de pair avec la concentration des populations, et aussi ça a fait venir évidemment tous les animaux qui se nourrissent, c'est-à-dire les parasites, les rats, etc. Et en fait, la domus, la maison, le domaine domestique, c'est un espace dans lequel les maladies se sont développées dans des proportions considérables. Donc lui, il allait vraiment même l'air de penser que c'est très mauvais pour la santé. Tout ce qu'on a fait, c'est très mauvais pour la santé. Donc il faut réinventer aussi le rapport à notre environnement. On arrête les maisons, enfin les maisons, on arrête le domus, c'est-à-dire le... Non mais là, on arrête de constituer des espaces comme ça, de concentration en fait. Évidemment, je sens que vous riez parce que vous voyez bien que je dis des choses qui sont totalement utopiques et impossibles. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi un peu rêver... Je pense qu'il faut un peu rêver notre avenir. Donc, en tout cas, ce livre, c'est vraiment ça ouvre un espace de rêve qui est très important. Et c'est soutenu par plein d'autres livres qui essayent d'élaborer justement d'autres manières d'envisager l'agriculture. Si je devais choisir une musique pour accompagner cette utopie, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le disque blanc, là, non pas des Beatles, mais de Pink Floyd, vous savez, où on voit ce personnage qui est en train de flamber. La chanson à laquelle je pense, c'est « Wish You Were Here », parce qu'en fait, c'est une chanson dont parle un de mes personnages dans « Éloge des bâtards ». Et « Wish You Were Here », j'aurais aimé que tu sois là ou j'aurais aimé que vous soyez là, c'est une utopie, mais au passé. Alors peut-être que voilà, ça raconte quelque chose pour moi du lien entre le passé et l'avenir. Parce que j'ai quand même l'impression que, et d'ailleurs c'est ce que je fais quand je vous parle du livre de James Scott, j'ai l'impression que pour imaginer l'avenir, on est obligé de se pencher sur des épisodes anciens de notre histoire. En fait, ce que je pense un petit peu, pas complètement mais un peu, c'est que les écrivains sont ceux qui inventent les fictions qui ensuite vont devenir des réalités. Et donc si on arrive à faire ça, c'est que vraiment on est très puissant.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from rain? Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil? Do you think you can tell? They get you trained. Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for the cool breeze, cold covered for change.
Ce classique mélancolique de Pink Floyd, ce chant d'absence, publié en 1975 sur l'album du même nom, ici repris, c'était en 2001, par le regretté Mark Linkous, alias Sparkle Horse, en duo lointain, enregistré par téléphone, il me semble, avec Thom Yorke qui gémit quelques chœurs. Et c'est joli, ce tempo inquiet, proche de notre apathie, parfois face à l'hypothèse troublante des temps qui viennent. J'ai fini par vider mes sacs. J'ai regardé la totalité de mes possessions étalées devant moi, dans la lumière, ordonnées, prêtes à l'emploi, volontairement réduites à l'exact nécessaire, pareil aux instruments d'un chirurgien avant l'opération. J'ai pensé, on voit mieux dans le peu, on vit mieux, on se déplace mieux, on conçoit mieux, on décide mieux. J'ai savouré la pensée que ma vie était là désormais, le fatras de mes 40 années d'existence réduit à cette somme d'objets sur une étagère. Écrit Sylvain Prudhomme, 40 ans, dans son dernier roman « Par les routes », publié en cette rentrée aux éditions L'Arbalète Gallimard. Oui, mais question, une fois que les sacs sont vidés, les possessions réduites à l'essentiel, où aller? Vers quel avenir? Par les routes, suit les pas de Sacha, écrivain, quittant Paris pour la Provence afin de travailler au calme à son prochain livre. Mais surtout, il part pour faire une pause, avec juste la dose d'isolement qui lui permettrait de se ramasser, de se reprendre et peut-être de renaître. Sacha retrouvera un ami passionné d'autostop qui parcourt comme ça le pays de part en part, ouvert à tous les possibles. Interrogé, comme je l'ai fait dans cette émission et dans celle de la semaine dernière, des artistes sur leur vision du XXIe siècle, de l'an 2100, c'est aussi plongé dans le vertige des possibles, des intuitions, en réfléchissant à voix haute avec eux, au bord d'une route, comme ce fut le cas dans la nuit. Une fois, entre un samedi et un dimanche, entre deux danses, lors de la dernière édition des correspondances de Manosque. L'interview qui va suivre a été enregistrée en plein air, à 2h36 du matin, à la lueur des lampadaires. Je ne sais pas si ça s'entend.
Putain, où sont mes lunettes? J'ai encore perdu mes lunettes. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi?
Quand je pense à ce qui nous reste à vivre du 21e siècle, je vois mille tentatives d'asservir notre temps, de nous cadenasser de partout, de nous verrouiller, d'encadrer nos vies toujours plus. Pour moi, ça se joue vraiment du côté du temps, de notre temps, de notre durée à chacun en fait. On a une vitesse intérieure, un rythme intérieur, une pulsation intérieure et ça me frappe quand je rentre de vacances ou que je sais pas, quand j'ai été loin de toutes les choses qui nous contraignent, j'ai l'impression de revenir dans un tout d'un coup un cadre, enfin dans un temps qui est compté, qui partout et qui sans cesse m'est volé par le travail, je sais pas, mais par mille messages, mille choses à écrire, mille réponses qu'il faut renvoyer au monde autour de nous, et toujours plus, j'ai l'impression. Et donc je rêve pour le 21e siècle, la suite du 21e siècle, je rêve qu'on se fâchera, qu'on s'accrochera très fort à notre rythme à chacun, enfin je sais pas, notre temps, notre droit à s'ennuyer, à glander, je sais pas, mais c'est pas seulement glander, c'est pouvoir écouter les choses, être attentif. En 2100, je pense que ça ressemblera toujours un peu à ça. Je crois pas à la métamorphose du décor, mais je pense que c'est dans la façon dont se dérouleront nos journées. Tous foutus, mais on l'a toujours été, de toute façon. Et moi, j'ai toujours aimé les livres qui parlent de ça, du fait que bah, de toute façon, on est foutu. On est NAIT foutu. On va tous y passer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut, il faut pas essayer de faire que quand même le 21e siècle, ça ne soit pas, là, ça soit pas tout de suite la catastrophe. Enfin, je pense qu'on a une responsabilité, évidemment. Mais c'est vrai que les livres, moi, qui m'ont toujours fasciné, c'est les livres qui parlent de ça, de l'homme dans le temps, de l'homme dans son infirmité, d'être vivant... mais qui est né pour mourir et qui est de toute façon minuscule dans l'immensité du temps, dans l'immensité de l'espace. Les paysages, les décors de science-fiction qui me fascinent, c'est les... Pour moi, ça a toujours été l'infini des récits de Borges, la bibliothèque de Babel, et ces hexagones qui à l'infini se ressemblent, où tout est contenu, où il y a les livres dans cette bibliothèque de Babel, il y a tout, il y a tous les livres, il y a les livres qui disent comment nous on va mourir, comment qui disent tout ce qu'on a vécu, qui disent à quoi ressemblera le 21e siècle, qui disent si la catastrophe elle arrivera là bientôt ou si on va réussir à bricoler à trouver des façons de s'en sortir encore un peu, mais tout ça est dans la bibliothèque de Babel et ce vertige de ce vertige de l'infini des possibles, c'est ça, de l'infini des livres possibles à écrire et de tous ceux qui existent, de tous ceux qui peut-être sont là cachés sur des rayonnages, ça m'a toujours fasciné. Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d'un trésor intact et secret. Il n'y avait pas de problème personnel ou mondial dont l'éloquente solution n'exista quelque part, dans quelque hexagone. Paradoxalement, c'est une heureuse nouvelle, en fait, de savoir que tout est... que quelque part, la solution existe. Ce qui, en moi, refuse tous les discours qui sont trop d'anticipation. Je pense que c'est le fait que là-dedans, il y a encore un peu la même volonté de maîtrise, de tout savoir, de tout prévoir, de tout comprendre. Et je crois que ça, c'est quelque chose à quoi tout mon être se refuse, en fait. J'aime pas je trouve que c'est la même prétention de l'homme qui a déjà causé tant de désastres, la même impression qu'il peut tout savoir, tout anticiper, tout. Et il n'y a pas longtemps, j'ai essayé d'écrire un texte prospectif. C'était une nouvelle pour un hebdomadaire. C'était à partir de photos du décollage d'Apollo. Donc en 69, enfin pour le cinquantenaire du premier pas d'Armstrong sur la Lune. Et donc j'avais une photo où... on voyait c'était le contre-champ, on voyait toute la foule qui avait les yeux levés vers la navette en train de s'envoler. Et c'est une photo qui me touchait beaucoup. Et j'ai imaginé qu'on n'était pas 50 ans après, mais 100 ans après. Et qu'en fait, ce premier décollage avait été le début, en fait, d'une fuite de tout ce qui pouvait. Qui s'étaient enfuis de la planète. 100 ans après, il restait plus que ceux qui n'avaient pas... Bah que les pauvres, quoi. Tous ceux qui avaient les moyens avaient préparé en douce leur fuite, leur évasion, et étaient allés s'installer sur la Lune. Et la Terre n'était plus qu'une réserve, en fait. Ne servait plus qu'à s'approvisionner en ressources pour ceux qui continuaient de vivre sur la Lune. Et il y avait, bon, la nouvelle racontait les dernières secondes de vie d'un de ceux qui étaient restés sur la Terre et qui était chargé d'archiver, d'essayer de conserver un peu une mémoire une mémoire du 21e siècle. Donc il gardait des images comme ça de notre vie d'humain au 21e siècle. Et dans la nouvelle, se passait au moment où arrivait un rayon laser qui détruisait ce, ce centre dans lequel il essayait de se réfugier. Le centre explosé. Et la dernière image qu'il voyait, c'était cette image 100 ans plus tôt, des humains heureux de voir la navette s'envoler, fascinés et ne mesurant pas l'air que ça ouvrait en fait, et qu'elle est 100 ans plus tard finir par comme ça. Ouais. La nouvelle s'intitule La dernière image.
Nova Book Box. Parfois, une page suffit.
Si je devais choisir une chanson qui nous raconte le futur proche, je crois que ce serait le Where Is My Mind des Pixies. Pour la tension incroyable qu'il y a dans les notes tout au long de la chanson, la façon de les étirer, de les tendre comme ça, et de les faire planer comme ça au-dessus de la voix qui elle aussi est assez extatique, comme quelque chose d'un aveuglement, d'une sorte de transe, je sais pas, qui nous traverse, qui nous déchire en même temps. Qu'on n'arrive plus à comprendre, en fait, qu'on n'arrive plus à quelque chose qui nous aveugle, qui nous déchire et qui nous transporte dans un état où on comprend plus grand chose non plus de ce qui nous arrive. Pour moi, c'est vraiment une chanson où on s'absente à soi. On est plus maître de rien. On comprend. Ouais, on est plus maître de rien.
Stop. We'll be right back.
Where Is My Mind, tiré du premier album des Pixies en 1988. Inoubliable bande-son de cette image marquante, la finance qui s'effondre, ses banques qui s'écroulent et tous les compteurs remis à zéro suite à quelques sabotages perpétrés par les anarchistes d'un projet chaos mené par un certain Tyler Durden. Dernière image du film Fight Club, réalisé par David Fincher, sorti en salle le 10 novembre 1999, pile le jour de mes 18 ans, ça marque, ça laisse des traces comme des traces de coups. Petit bonus, il y a 15 jours, l'écrivain Sylvain Prudhomme signait une tribune dans Libération, dans laquelle il revenait sur l'interview que vous avez entendue juste avant la chanson des Pixies. Titre de cet article, Scénario pour le monde en l'an 2100. C'est à lire en ligne. Il explique ses difficultés à exprimer justement son idée d'un futur immédiat, célèbre les pouvoirs de la fiction et tresse tout de même quelques intrigues pour demain. 2100. Les inégalités nord-sud se sont aggravées jusqu'à l'explosion. Les 9 dixièmes de l'humanité sont définitivement asservis par une poignée de privilégiés qui les tiennent en joue du haut de murailles hérissées de miradors. 2100. Les ZAD ont partout proliféré. De toutes parts, l'envie d'un autre monde gagne. Bientôt, le productivisme forcené ne sera plus qu'une curiosité périmée, accès de folie dont l'homme aura mis 3 siècles à guérir. 2100, les riches ont liquidé l'intégralité des pauvres et fichu le camp sur la Lune. Rendez-vous sur Terre en 2200, une fois la planète régénérée. 2100, les rues sont à peu près comme elles l'étaient en 2000. La température est montée de 5 degrés, les dernières baleines sont mortes, mais on a sauvé le tigre. Les journées sont calmes, chacun fait sa sieste éclair. Médecins et coachs en bien-être veillent sur nos repas. On n'est pas beaucoup plus heureux qu'autrefois, mais des scientifiques travaillent à reconstituer des morceaux de forêt primaire dans la fraîcheur de laquelle se ressourcer. On a appris à se déconnecter, à contenir le travail dans des horaires raisonnables, à dédramatiser la dépression devenue très civilisationnel et marqueur de développement. Pour un peu, on dirait que tout va bien. Cette émission a été réalisée par Sullivan Clabot. La semaine prochaine, j'aurai envie de vous dire « Ouais ! Du bateau !» Nous partirons direction Saarbrück, en Allemagne, pour rejoindre Guy Delisle, Jean Echenoz, Marie Desplechin et Emmanuel Ruben, un dessinateur et 3 écrivains, pendant 4 jours, à bord de la péniche du festival Passerelle d'Europe, qui traverse en 2 mois les fleuves et canaux du Grand Est. Bonus inqualifiable de ce Nova reportage Cry Me a River. À Sarreguemines, en Moselle, je retrouverai l'enfant du pays, François Perrin, écrivain, barman et détective privé, dit Croque la vie. Et quand on sait que Rimbaud, lors de sa deuxième fugue d'octobre 1870, gribouilla un petit poème ironique intitulé « L'éclatante victoire de Saarbrück », où les piou-piou soldats font la sieste tandis que l'un montre ses fesses à Napoléon III, ça promet, franchement. Bon après-midi, bon dimanche et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires. Comme dit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.